Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. Nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd.
Nous vous proposons ce soir l'émission supplémentaire de la série de 12 consacrée à Roger Pestori. Celle-ci est donc la deuxième consacrée au thème de l'activité de résistant de Roger Pestori durant la guerre 1940-1944. Nous reprendrons directement l'entretien là où nous l'avions laissé lors de l'émission précédente sur ce même sujet.
C'était très important. La petite que j'ai accompagnée jusqu'à Jarlan, il fallait le faire quand même, dans les conditions qui étaient les miennes. Il fallait être d'une imprudence. Vous imaginez qu'il me serait arrivé quelque chose, l'idée qu'on se serait fait de moi, j'étais condamné, j'étais presque pourchassé. D'ailleurs, je vais vous raconter un épisode, je terminerai sur ce terrain. Quand j'étais chez ces gens là-bas, rue Garibaldi, Je suis tombé malade, parce que moi j'étais le paysan du Lot, on mangeait bien chez nous. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec un morceau de lard, ce morceau je l'ai donné à mes propriétaires, ils étaient bien contents. Moi je me demandais pourquoi ils étaient si contents de récupérer du lard, j'ai vu ensuite ce que ça représentait. Et alors j'ai passé un mois ou deux où je souffrais de la faim. Premièrement pour l'argent, parce que quand je suis venu, j'avais 17 000 francs que j'avais vendu mes bœufs. Mais je les ai donnés à la direction des jeunesses communes, parce que ça a permis de payer 17 copains. On nous donnait 1 000 francs par mois, on vivait avec 1 000 francs par mois. Mais au début, j'avais même pas ces choses-là, c'était difficile à se procurer. Il a fallu, pour qu'on soit en situation stable, que je fasse dévaliser par des groupes d'action que nous avions, des mairies. Vous savez, on allait dans les mairies, on piquait les tickets d'alimentation, on les vendait au marché noir et puis ça nous faisait de l'argent pour payer nos permanents. Et c'est comme ça que un de mes camarades qui est mort à Dachau, Hermite, Guy Hermite, qui était de Grenoble, m'a apporté un jour un paquet, c'était des billets de 1000 francs, et il m'a donné ça. J'ai dit, t'as pris tes 1000 francs? Ah non, surtout pas, je ne me serais pas permis. Il a fallu que j'ouvre le paquet, lui donner ses 1000 francs. Ça, il y avait quelque chose de très fort à ce moment-là. Eh bien, pour revenir à mon histoire, j'ai été malade, j'ai pas pu assurer mes réunions pendant un mois. Pendant un mois, j'avais une crise d'hémorroïdes. J'ai été opéré d'ailleurs à la Libération, parce que j'ai été opéré à l'hôpital de Genève. J'ai fait trois mois d'hôpital, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais pas pu me soigner. Il y avait tout un tas de complications à la Libération. Enfin bref, je suis resté un mois. Et un mois, comme j'étais arrivé récemment à Lyon, les copains Hubert dont je parlais, Berlemont, ils ont dit, ou Maurice est arrêté, ou il n'a pas tenu le coup. Et s'il n'a pas tenu le coup, il est retourné chez lui. Voilà, là. Et oui, parce que moi je connaissais déjà les réunions. J'étais en danger public. À partir du moment où j'étais plus aux réunions, on s'interrogeait. C'était toute la structure organisationnelle qui était en danger. Et alors ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé deux gars là-bas, à Gignac. Et ces deux gars étaient chargés de me tuer si je retournais là-bas. C'était la loi de la guerre. Si j'avais pas tenu le coup, que j'ai craqué, que je sois retourné chez moi, avec ce que je savais, il fallait absolument me détruire. Et c'est ce qu'ils auraient fait. Et quand j'ai repris contact avec le camarade, Hubert, il pleurait presque. Il m'a dit à dire qu'on a fait ça. On se demandait ce que tu... On disait où il est arrêté, où il a pas tenu le coup et tout. Vous voyez comment c'est douloureux. comment il y a des circonstances, des fois où on prend des décisions terribles, terribles, terribles. Alors voilà, ça, c'est tout ça. L'histoire de la résistance, c'est aussi fabriqué de tout ça. Voilà un peu ce que je voulais rappeler. Je les recevais comme ça, d'un côté. C'était mon travail, en effet. Et faire des rapports, j'écrivais beaucoup, il fallait beaucoup, beaucoup écrire.
Et au-dessus de vous, il y avait un seul interlocuteur?
Voilà.
Vous en aviez plusieurs?
J'en avais deux. J'en avais trois, même. Il y avait, d'une part, Hubert, qui s'appelait Léo Figuière, qui a été ensuite député qui était le secrétaire général des jeunesses communistes. Je lui dois ma vie, parce que les règles de sécurité, lui, il était strict là-dessus. Il y avait lui, que je voyais toutes les semaines, et il y avait Berlemont, un autre camarade que je ne connaissais pas, qui a été longtemps conseiller municipal, vice-président du conseil municipal de Paris. Il y avait ces deux camarades avec qui j'étais en liaison pour les jeunesses communistes. Parce qu'en même temps, je faisais partie de la délégation de zone sud des jeunesses communistes. Et nous avions des réunions, disons, assez, toutes les semaines. Et j'avais une troisième relation, c'était avec Georges Marane. Parce que Marane, c'était le dirigeant du Front National de la zone sud, toute la zone sud. C'est lui qui a structuré le Front National. Et quand on m'a fait appeler à Lyon, on m'a fait appeler à la fois pour les jeunesses communistes et avec cette idée de me confier la tâche de regrouper tous les mouvements de jeunesse dans une structure particulière qui s'est appelée ensuite les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, dont j'en parlerai dans un moment. Disons que au-dessus de moi, il y avait ces trois personnages. C'est les seuls personnages avec qui j'étais en liaison sur le plan d'une autorité sur ma personne. Et tout le reste, c'était moi l'autorité, avec toutes ces liaisons, des liens dans chaque département, et j'allais souvent sur place, on animait ces choses-là, je pouvais pas rester ici à Lyon lorsqu'il se passait des événements, lorsqu'il fallait écrire des textes, lorsqu'il fallait encourager les camarades. Et je me rappelle ces camarades à Grenoble, qui étaient très chaleureux. J'ai raconté une fois l'épisode d'un camarade, c'était un Hongrois. Il était étudiant là-bas à Grenoble, et le soir il m'a dit: tu vas pas coucher à l'hôtel, tu viens coucher chez moi, parce que c'est moins risqué qu'à l'hôtel. Je vais coucher chez lui, un beau gars. Il a été vice-président du conseil, là-bas, je sais pas, en Hongrie. Il a été un personnage très connu. Vous savez, à la Libération, on s'est plus revu, tous ces camarades. Il y a eu un trou. Il y a eu même pas ce besoin. On était tellement déboussolés de se réinstaller et tout, qu'il y a toute une période comme une glace qui s'est créée. Il a fallu des décennies ensuite pour que on reconstitue entre nous des liens que nous avions créés à ce moment-là. Et ce camarade, je me souviens toujours de cette chambre, il m'a dit: tu couches là, il a mis un matelas, il n'avait qu'une pièce, et puis à minuit on sonne, à minuit. J'ai dit: la trouille me regarde, comme ça, il me fait. Eh bien, mon cher ami, quand on a 23 ans, qu'on est en manque, parce qu'on était quand même en manque, tout ce qui est la vie, tout ce qui est la femme, tout ce qui est l'amour, toutes ces lettres que j'envoyais à ces jeunes filles, ça, pour moi, c'était une solitude pesante. À minuit, ça frappe, qu'est-ce qu'il y a? C'est une femme belle, je la vois encore belle comme un ange qui rentre. Eh bien, c'était cette période à ce moment-là. Cette femme est venue, elle a fait comme ça. Elle s'est déshabillée toute nue. Ils ont fait l'amour, tous les deux, comme si je dormais. Et le lendemain, elle est partie très tôt. Elle s'est habillée, elle est repartie. Et lui, il m'a dit: on ne parle pas de cette nuit, on parle de notre travail. J'ai gardé ce mythe des choses, voyez. Comment on peut créer des situations. On raconterait cette histoire maintenant, ça pourrait pas exister maintenant. Mais à ce moment-là, c'était des choses. Je sais pas. Quand on a créé le surréalisme plus tard au niveau de l'art et tout, il y avait un peu de ça. Il y avait un surréalisme qui venait à notre rencontre. Et il y avait une mythologie qui se créait, et ce parfum de femme, cette nudité de femme, ce corps de femme, cette violence amoureuse la nuit, avec ce lit qui bougeait, et cette vibration, le Maurice de 23 ans qui était là, il pensait que je dormais, je pense qu'il pensait que je dormais, mais je dormais pas, bien sûr. J'étais à l'affût de tout, et qu'elle parte comme une ombre le lendemain. Oui, c'est quand même des choses que j'ai vécues, qui ont été extraordinaires, qui ont été extraordinaires. Voilà un peu des épisodes de ce temps-là, comment les choses se passaient. On n'était pas des brutes là, avec des revolvers, isolés de tout. On était des êtres humains, on avait notre sensibilité et on avait nos besoins amoureux.
Elle contemplait son corps nu parfait dans le grand miroir. De mon lit défait, je la regardais, c'était beau à voir. Ses habits étaient posés sur la chaise près de l'armoire. Elle s'habillait sans hâte, c'était la tombée du soir. Je la regardais nouer ses lacets, refaire sa coiffure. Puis quand elle semblait enfin satisfaite de son allure, elle me disait « c'était très bien, mais il faut que je file ». Puis elle posait un baiser distrait sur mon front docile. Alors j'écoutais ses pas s'éloigner tout le long du mur. La porte grinçait puis se refermait, terrible blessure. Tout autour la nuit se brisait sans bruit en menue fêlure. Et moi je restais le cœur aux aguets seul dans mon armure. Alors j'inventais je ne sais quoi et dans la fumée lente, je redessinais le corps nu parfait de ma belle absente. Je l'imaginais qui me revenait, qui disait je reste. Puis tout s'embrouillait, se désintégrait en cendres funestes. Et comme battait le sang des regrets tout contre ma tempe, dans mon lit défait, je me retournais, j'éteignais ma lampe.
Je voulais rappeler aussi le 11 novembre 1943. Je disais tout à l'heure que j'étais souvent à Grenoble. C'était un peu mon deuxième état-major là-bas à Grenoble, parce que j'avais des structures, j'avais une organisation des jeunesses communistes très forte. Il y avait des groupes armés qui étaient très puissants. Il y avait les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique qui s'étaient constituées en septembre 43. Avant, on avait le Front Patriotique de la Jeunesse. J'étais un peu chez moi, là-bas. Vous savez, Grenoble, c'est une ville particulière parce que il y avait l'occupation italienne qui était moins rigoureuse que l'occupation allemande. Et un jour, sur le marché, je me rappelle, une dame comme ça, elle devait supposer, elle m'a donné un saucisson. Vous vous rendez compte, un saucisson, à ce moment-là, J'ai récupéré ce saucisson, je l'ai amené à Lyon. Le premier copain que j'ai vu, je lui ai donné mon saucisson. Ce coquin, il a été dans une boulangerie, il a acheté un bout de pain, il a bouffé le saucisson sans même m'en proposer. Vous voyez, des choses. Ça pouvait pas lui venir à l'idée que si je lui donnais un saucisson, moi j'avais pas mangé ma ration aussi. Vous voyez, des choses. Mais cette dame qui fait ce geste me donne un saucisson. On était un peu chez moi. Il m'est arrivé une histoire, d'ailleurs, à Grenoble. Ça, c'est peut-être pas à répéter, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Quand je suis arrivé, quand je me déplaçais, on m'avait donné une protection. Ça veut dire que pour assurer notre sécurité, quand je prenais le train, j'avais un gars devant, dans le wagon devant moi, et un gars, le wagon derrière le mien. Et ils étaient chargés de ma protection. C'est-à-dire que si j'étais arrêté, ils étaient armés, eux, ils étaient chargés d'assurer ma protection, que j'échappe à l'arrestation. Ça, on a supprimé ça ensuite, ça s'est avéré plus dangereux, ça multipliait par trois le risque. Mais ce jour-là, je descends en gare de Grenoble, et je vais à mon rendez-vous, et puis il y a un gars qui me suivait, il y a un gars qui me suivait, là, je disais, qu'est-ce que c'est, était filé, j'avais cette inquiétude. Et mes deux gars avaient vu derrière, ils avaient vu ce manège, et ils étaient chacun un trottoir de chaque côté de l'arme, et ils suivaient. Alors j'ai dit, comment te débarrasser de ce gars? Alors, le meilleur moyen, c'était d'aller dans un urinoir, et puis voir ce qu'il allait faire. Et je suis allé dans un urinoir, et il est venu, et il m'a fait des propositions. J'ai dit, espèce de salaud, tu pouvais pas le dire plus tôt? Je suis sorti de là, et quand j'ai dit pas le dire plus tôt, la trouille qu'il nous avait faite, je sais pas ce qu'il est devenu, ce gars. Mais comment il aurait pu risquer sa peau aussi, vous voyez? Il y aurait eu la moindre violence et tout. Et alors que je croyais d'être filé par la Gestapo, puis c'était un gars qu'il suivait, il voulait son aventure. Vous voyez, le hasard, la vie, comment elle est faite de ces gestes multiformes, de tout ce qui est l'expression de nous-mêmes dans une certaine mesure. Et alors, ce 11 novembre 1943, là, nous voulions faire l'événement. Nous voulions faire quelque chose de très, très fort à Grenoble. Et il y avait le monument des Diables Bleus. À ce monument des Diables Bleus, nous avions organisé un rassemblement en ce lieu qui était symbolique. Et là, c'était préparé. J'étais là-bas presque tous les jours pour organiser. Et on avait prévu une grande manifestation, et on avait prévu que les FFI, les FTP descendent des maquis pour protéger les manifestants. C'était quelque chose de grandiose, mais on pensait que c'était possible de réaliser ces choses-là. Et alors, tout était préparé, Et ce 11 novembre, moi, j'étais là-bas. J'aurais pas dû être là-bas, parce que normalement, on devait donner les directives, mais pas se trouver sur les lieux où il y avait ce risque. Cette... Mais j'étais là-bas. J'étais là-bas parce qu'il y avait les copains. J'avais au moins plus de 100 copains qui étaient là, organisés, tout cela. Et il y a eu des centaines de personnes qui se sont rassemblées. Et puis moi, je sentais bien ce qui se passait. Et jamais il y a eu... Les forces armées ne sont venues assurer la protection. Et puis à un moment donné, c'est pas les forces, les copains qui sont venus, c'est les Allemands, c'est la Gestapo, c'est tout ça. Et alors j'ai pu me sauver de là, me sauver de cet enfermement. Je suis parti à pied, j'ai pris le train à 20 km, je ne me rappelle plus quelle gare, pour rentrer à Lyon, et j'ai appris le lendemain ce qui s'était passé. Il y avait eu plus de, je crois, 400 arrestations. Il y a eu, et ils ont été déportés, il en est rentré 3 ou 4 de déportation. 11 novembre 1943 à Grenoble. Un événement terrible, terrible. Et là, tout notre état-major est tombé. Mais la direction des, ils étaient tous là. La direction des jeunesses communistes, la direction des FUJP, les camarades du parti, tout est tombé dans la trappe. Tout est tombé là-dedans. Je vous dis, près de 400 arrestations, je ne sais pas combien, 380, peut-être 400. Il y a des chiffres exacts, d'ailleurs. La presse commémore chaque année. Et vous trouverez ça dans votre besoin de connaître ces pages de l'histoire. Mais je vous demanderai d'étudier en particulier ce 11 mars 1943 à Grenoble. C'est une page noire très forte, très forte. Et je me rappelle après, quand il a fallu reconstituer l'organisation, c'était le vide, le désert. J'ai envoyé un de mes courriers qui s'appelait Odile Réa. Je l'appelais la Benjamine de Villeurbanne. C'était une des plus jeunes résistantes. Je crois qu'elle avait 16 ou 17 ans à ce moment-là, ou 18 ans. Enfin, elle avait 20 ans quand je l'ai connue. Et quand je lui ai dit, tu vas à Grenoble, tu vas prendre la direction des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, il faudra évidemment prendre des contacts, parce que... Et m'a dit, mais qui c'est que je vais remplacer? Je lui ai dit, ben, tu vas remplacer, ils sont tous morts. Et alors, elle me dit maintenant, il y a 2 ans de ça, dit, vous rendez compte, j'avais 20 ans, il m'envoie là-bas pour remplacer quelqu'un. Il m'a dit, ils sont tous morts. J'étais très, 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 très dur dans la résistance. Ces filles m'appelaient, j'étais très courtisan, j'avais 23 ans, mais c'est vrai que je faisais très vieux, parce que j'avais perdu ma mère, j'avais maigri de 25 kilos quand ma mère est décédée. Je suis arrivé ici dans cet état, et toutes les filles maintenant disent, on t'appelait le vieux. Elle m'appelait le vieux, parce que de propos, de résolution, oui, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors cette petite Odile, quand elle rappelle ça, elle m'a dit, ben écoute, oui, on t'appelait le vieux, et puis tu m'as dit, ils sont tous morts. Alors, et c'est des épisodes qui rappellent un peu cette atmosphère. Voilà pourquoi je voulais parler de ce 11 novembre 1943, en vous demandant, si possible, d'avoir un dossier là-dessus, parce qu'il doit y avoir des témoignages, il doit y avoir des livres, et j'aimerais bien avoir, disons, plus de renseignements sur cette épisode où je me suis trouvé engagé dans une histoire terrible, terrible. Je rappellerai ensuite, c'est quelque temps avant la libération, je pense que c'était au mois de juillet ou d'août, à Lyon, Place Henri. J'avais à ce moment-là une réunion avec Place Henri, avec Roger Roucotte. Et Roger Roucotte, c'était un camarade que j'aimais beaucoup, parce que tous les deux, il y avait eu des liens très, très fraternels. C'est Roger Roucotte qui avait été chez moi, il était intercadre des jeunesses communistes. C'est lui qui authentifiait la responsabilité des camarades pour leur confier des missions ou des responsabilités. Et ce Roger Roucotte avait été chez moi, il avait vu mon frère qui avait été libéré de prisonniers de guerre pour l'informer que j'étais pas mort. Parce qu'au moment-là, des prisonniers de guerre avaient écrit chez moi qu'ils avaient lu sur un journal mural là-bas que j'avais été condamné à mort. exactement ce que j'ai été par le tribunal militaire de Lyon en 1944. Mais ça, j'ai été condamné, mais j'ai pas été fusillé. Mais d'abord, tel que c'était interprété, les gens croyaient que, effectivement, j'étais plus de ce monde. Alors il a été là-bas pour confirmer à mon frère que j'étais bien vivant. Et ce Roger Roucotte avait rendez-vous avec moi, place Henri. Il avait rendez-vous place Henri, et en même temps, j'avais envoyé à ce rendez-vous un de mes courriers, Odette Sabaté, elle s'appelait, de son vrai nom, je ne me rappelle plus son nom de guerre. Et je l'avais amené parce que lui avait une lettre à me donner. Il avait avec des instructions, avec tout ça, et il fallait pas que dans notre entrevue, il y ait cette lettre, il fallait que le courrier prenne cette lettre et disparaisse pour que nous, on soit tranquilles. Et puis moi, je me suis trompé de rendez-vous. Au lieu de l'attendre place Henri, je l'ai attendu à Grange Blanche. Vous savez, il y a un petit chemin, il y a une petite rue qui va jusqu'à la place Henri. Alors pendant que j'attendais là, ce rendez-vous était donné. Non, on ne sait pas. Vous savez, c'est les derniers mois de la libération. Si la libération de Lyon était intervenue 3 mois plus tard, on passait tous à la Casserole. Barbie avait tellement structuré, il y avait tellement des réseaux d'espionnage. Moi, j'ai un de mes courriers qui a été arrêté, cette gosse de 18 ans dont j'ai parlé, dont je parlerai un jour, tout ça. On était vraiment sur pied. Enfin bref, comment ce rendez-vous a été donné, on n'en sait rien. En tout cas, moi, je me suis sorti de là par mon étourderie, ne pas savoir qu'on avait rendez-vous là-bas au lieu de Grange Blanche. Et alors là, ils ont été arrêtés tous les deux. Là, c'était la Gestapo, il y avait la police qui les a arrêtés. Là. Et ils ont été internés à Montluc. Ils ont été terriblement torturés. Terriblement torturés. Et mon ami Roucotte, lui qui avait été voir mon frère, lui en qui j'avais eu une telle estime, il a été torturé, mais ce qu'il avait le plus marqué, c'est qu'un jour qu'il le torturait, là-bas à Montluc, ça se passait à Montluc, un jour qu'il le torturait, c'est les miliciens, c'est pas les Allemands là-bas qui les ont torturés, c'est les miliciens, c'est la milice, c'était des sauvages, c'était des gens qui avaient fait des crimes, ils avaient peut-être commis n'importe quoi sur n'importe qui. Et ce jour-là, au moment des tortures, au moment où ils saignaient tout ça, ce milicien est venu avec une fille, il a fait l'amour avec cette fille sous ses yeux. Il jouissait de la... Eh bien, c'est ce qu'il avait le plus marqué, mon ami Roucotte. Il dit, tu vois, tout le reste, les tortures et tout, ça passe, c'est dur, mais ça restera toujours toute ma vie. D'ailleurs, il n'a pas vécu longtemps parce qu'il est mort de ces tortures. On devait le mettre dans le lot de Saint-Genis-Laval, les 120 qui sont venus chercher. Et quand ils sont allés le chercher, ils ont dit, il va crever ici de toute façon, c'est pas la peine de l'amener là-bas. Vous voyez dans l'état où il était. Alors ils ont été très torturés. Et heureusement que la libération est venue quelques jours plus tard, et c'est comme ça que tous les deux, mais enfin lui le pauvre, il a payé de sa vie ses souffrances puisqu'il en est mort en définitive. Mais ça, c'est des images qui restent parce que chaque fois qu'il y avait comme ça une disparition, chaque fois qu'on savait qu'un camarade était tué, les courriers en particulier, et quand on avait la certitude qu'ils ne parlaient pas, ça nous sécurisait parce qu'on avait une confiance absolue en eux et que c'était des camarades. Camarades, ce mot, il sonne très fort à moi, le mot de camarade. Camarade, ça voulait dire l'absolu dans la confiance. Et je pense que cette image que j'ai de cette époque, de ces camarades qui ont été jusqu'au bout, qui n'ont pas parlé, qui ont souffert, eh bien, hommage à eux. Je pense que les vrais héros, c'est pas nous, c'est eux. Nous, on a fait simplement notre travail.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. C'était 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères. Pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient à la France en s'abattant.
Voilà un peu ce que je voudrais rappeler de cet épisode. Et je voulais parler de la libération de Lyon. La libération de Lyon, ça a été, disons, une page, je dirais pas une page noire, mais ça a été un échec. Ça a été un échec pour nous. Ça a été un échec. Quand il y a eu le débarquement du 6 juin 1944, nous avons préparé ce qu'on appelait préparer l'insurrection. L'insurrection. Il fallait créer les conditions pour qu'une insurrection se produise, que les gens s'abattent, se battent pour que les Allemands soient chassés de nos villes. C'est ce qui s'est passé à Grenoble, c'est ce qui s'est passé à Marseille, c'est ce qui s'est passé à Paris, et c'est ce qui s'est passé dans de nombreuses villes. Et c'est ça qu'on préparait ici. D'ailleurs, depuis le 6 juin 1944 jusqu'à la libération, toutes les semaines, je faisais un rapport, il y en a 12 ou 14 là-dessus de ces rapports, où j'expliquais la situation, les événements et les directives que nous donnions. Tout ça, c'est dans 12 rapports qui sont au CHRD. Et je souhaiterais qu'un chercheur, un jour, aille feuilleter ces rapports, il pourrait faire toute une histoire là-dessus. Comment on préparait l'insurrection à Lyon, avec nos groupes armés de la vallée de Lazare, de l'Ain, avec toute cette armée qui remontait du Rhône, tout ça. Il y avait un contexte ici où on pouvait vraiment enclaver les forces d'occupation. Et c'est ça qu'on préparait. Et puis ça s'est pas produit. Ça a échoué. Ça a échoué dans des conditions tragiques parce que les ponts ont sauté. Les Allemands ont fait sauter les ponts. Et quand les ponts ont sauté, nous, on n'avait pas prévu ça. On n'avait même pas prévu de barques pour se voir les uns les autres. On était presque coupés. On était presque isolés. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on a laissé faire. On a laissé faire Montluc, on a laissé arracher les uns après les autres tous ses camarades qui ont été fusillés de ci, de là, un peu partout. Vous avez des tombes, vous avez des monuments qui rappellent que 20, 30 personnes arrachées de Montluc, Bron et ailleurs, et ça, on aurait pu l'éviter. Si on avait fait l'insurrection nationale, s'il y avait eu un esprit mobilisateur, s'il y avait eu ce courant de dire on va sauver nos camarades qui sont dans les prisons, on va libérer cette ville, on va se battre jusqu'au bout. Les Allemands étaient en situation défensive, ils avaient tous les échecs de la vallée du Rhône,
des routes,
parce qu'il y a eu le débarquement du 15 août. Il y a eu le débarquement du 15 août. Alors déjà, le débarquement du 15 août, il y avait eu le débarquement du 6 juin, Normandie. Après, là-bas, c'était fini, quoi. C'était la victoire assurée. Le rapport des forces était inversé. Et alors, si à partir du 15 août, quelques jours après, alors que Marseille était libérée, alors qu'il y avait tous ces cris de victoire partout, là, il y avait une atmosphère. Ça veut dire qu'à partir du 25 août, 15 jours après le 15 août, au moins 3 semaines avant, l'insurrection aurait pu surgir, parce qu'il fallait le faire à un moment où il y a l'assurance que on avait structuré que l'insurrection, ça veut dire on donnait le mot d'ordre d'insurrection nationale, c'est-à-dire grève générale et lutte armée, l'armée ouverte contre les fronts d'occupation. C'est-à-dire qu'il y avait la conjonction à la fois des FFI, des maquis de l'Ain, des maquis de la vallée de la Zergue, des forces armées que nous avions sur Lyon, des entreprises avec la grève générale de Villeurbanne, qui était en ébullition, et de tout ce qu'il y avait de structuré. Il y avait un rapport de force qui était vraiment, vraiment en notre faveur. Et là, ça a été décapité, tout ça. Ça a été l'échec. Ça a été un échec tragique. Et ici, ils auraient pu évacuer sous le coup de nos groupes armés, de nos FFI, de nos FTP, de tout ce qu'on avait mis en place.
Qu'est-ce qui a empêché le déclenchement de cette opération?
Ça a empêché l'attentisme. L'attentisme, c'est ça, c'est la gravité. Vous savez, à Paris, il y a eu le même événement. À Paris, il y a eu ce qu'on appelait la trêve. Ça veut dire qu'à un moment donné, ceux qui... c'était Chaban-Delmas à ce moment-là, Chaban-Delmas qui était le représentant du général de Gaulle, qui a fait négocier, par l'intervention de la Suisse, une trêve à Paris, au moment où la phase ultime allait se produire. Et cette trêve n'a pas pu se réaliser, parce que Roltanguy avait le rapport de force, lui permettait à lui de renverser la situation, de ne pas répondre à ses propositions de trêve, et de continuer le combat. C'est ce qui a sauvé la capitale. C'est ce qui a sauvé la capitale, et c'est ce qui a fait que Paris s'est libéré lui-même, et que Paris s'est libéré dans la fierté. C'est eux qui ont libéré leur ville. Mais Chaban-Delmas a eu ce courage de reconnaître son erreur. Il a reconnu à la libération. Il a dit, c'est Roltanguy qui avait raison. D'ailleurs, le général le président de la République, Chirac, a rendu un hommage extraordinaire à Roltanguy lorsqu'il est décédé. Il a fait quelque chose de très fort. Et Chaban-Delmas, il avait toujours un peu cette morsure qui lui était restée, parce que chaque fois qu'on avait des réunions à Paris, des résistants, ils nous disaient, aujourd'hui, il était ministre, aujourd'hui on se tutoyait tous. Et, tu vois, il y avait quelque chose de très fort. C'est un homme qui était honnête, il croyait bien faire avec cette trêve, parce qu'il pensait que Paris allait être détruit, comme les autres pensaient. Et ici, à Lyon, il y a ce rapport de force, il était inversé. Il y avait le colonel Descours, qui était au maquis là-bas, des Glières, tout ça. On l'a muté, je ne sais pas pourquoi, mais ici c'était un attentiste forcené, il fallait freiner. Il y avait surtout la peur de l'insurrection, surtout la peur et la peur des communistes ici à Lyon. Ici c'était quelque chose de très fort. C'est la ville où il y a eu le plus de dénonciations, le plus de lettres anonymes. Tous ces juifs que j'ai sauvés pour les envoyer là-bas sous protection de l'armée américaine, c'était ici à Lyon qu'on les dénonçait. Et ça crée une atmosphère, la peur que Quand les Allemands allaient partir, eh bien, il y a une autre force qui est les communistes. Et quand on a commencé à utiliser les lieux où on était les plus armés, Villeurbanne, quand Villeurbanne a commencé à bouger, alors ça a été la trouille finie. On a dit, ça y est, les communistes vont prendre le pouvoir. Et alors tous ces gens, colonel Descours, tous les autres, ils étaient à la préfecture, ces gens. Ils étaient déjà installés là-bas pour assurer l'ordre.
Nous avons trouvé une petite table de bois blanc que nous mettons à l'entrée du circuit. Nous interrogeons les prisonniers. Beaucoup viennent à nous. Nous recueillons des centaines de nouvelles. Je travaille sans lever le nez, je ne pense à rien d'autre qu'à bien orthographier les noms. Les choses nous sont facilitées du fait de la lenteur extrême du passage des prisonniers entre le moment où ils descendent du train et celui où ils accèdent au niveau du premier bureau du circuit. Celui du contrôle d'identité, il se passe 2h30. Pour les déportés, ce sera encore plus long parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'ils sont infiniment plus fatigués. De temps en temps, il y a la radio. Le programme est alterné. Tantôt des airs swing et tantôt des airs patriotiques. La file des prisonniers augmente. De temps en temps, je vais au guichet du fond de la salle. Toujours pas de déportés. Pas de déportés. Uniforme, dans toute la gare, femmes en uniforme, mission de rapatriement. On se demande d'où sortent ces gens, ces vêtements parfaits après 6 ans d'occupation, ces chaussures de cuir, ces mains, ce ton altier, cinglant, toujours méprisant, que ce soit dans la fureur, la condescendance, l'amabilité. D me dit, regardez-les bien, ne les oubliez pas. Je demande d'où ça vient, pourquoi c'est là, tout à coup, avec nous. Mais avant tout, qui c'est? D me dit, la droite. La droite, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est le personnel gaulliste qui prend ses places. Vous allez voir qu'ils vont être contre tout mouvement de résistance qui n'est pas directement gaulliste. Ils vont occuper la France. Ils se croient la France tutélaire et pensante. Ils vont longtemps empoisonner la France. Il faudra s'habituer à faire avec.
Il n'y avait que Yves Farge qui se battait contre eux. Yves Farge qu'ils ont presque mis en cause. Parce que Yves Farge avait appliqué cette loi de la guerre. Quand on tuait nos copains de Montluc, de Sidla, lui à ce moment-là, ils avaient fait des prisonniers allemands, tout ce qui remontait. Et Yves Farge avait dit aux Allemands, si vous les tuez, on tue nos prisonniers. Et il a fait tuer 80 prisonniers allemands et pour éviter que le massacre continue. Le cardinal Gerlier aussi est intervenu pour sauver, et je ne sais pas qu'est-ce qui a posé le plus, mais Descours et les autres, un dont le maire de Lyon a parlé, que je n'évoquerai pas, mais c'est dans le discours du maire de Lyon de cette année, où il valide ça, il dit c'est très bien, notre ville a échappé à la destruction comme on aurait fait de Paris si Chaban-Delmas avait réussi. Vous voyez l'histoire, vous voyez pourquoi à 86 ans j'ai cette rancœur des gens qui sont venus, qui sont nés après nous, qui viennent cracher un peu, qui comprennent pas que tous ces gars qui ont été tués, on aurait pu les sauver. Les ponts de Lyon, on aurait pu les sauver et on aurait pu libérer Lyon la tête haute. Et au lieu de libérer Lyon la tête haute, quand Lyon a été libéré, qu'est-ce qu'on a fait? Les Allemands se sont repliés tranquillement, sans qu'il y ait un coup de feu, et on a tendu les femmes. Les résistants de la veille, qui se disaient résistants, qui étaient pénistes, ils ont tendu sur toutes les places publiques, ici à Bron comme à Lyon, on tendait les femmes. C'est terrible, ça. C'est cette image affreuse qui reste de la libération. C'est pourquoi ça m'a... Cette période m'a beaucoup marqué. Ça. Je garde un souvenir attristé de cette période, de cet échec que nous avons vécu, de ces illusions qui étaient les nôtres, de croire que dans cette ville qu'on appelait la capitale de la résistance, il allait y avoir quelque chose de grandiose, la grève générale qui était déjà très forte chez Barnier, dans les entreprises de Villeurbanne. Il y avait un potentiel énorme à ce moment-là pour assurer notre fond. Mais c'est la peur des communistes, la peur des communistes. Et le colonel Descours, d'autres, celui dont le maire a parlé dernièrement ici à Lyon, d'autres ont joué cette carte avec un seul qui a résisté, c'est Yves Farge, qui est mort d'ailleurs quelque temps après la libération. Mais Yves Farge, il était le seul, il a même été agressé à la préfecture là-bas, parce que son comportement d'avoir fait tuer des Allemands, ça allait peut-être donner prétexte à ce qu'ils embrasent la ville de Lyon. Voyez un petit peu comment les cartes étaient jouées de part et d'autre. Et c'est cette carte, la carte de l'attentisme, la carte du défaitisme qui a pesé et qui a gagné ici à Lyon. Ça a été une période pour moi très triste, où je me suis senti très seul, quand on libère une ville, qu'on retrouve son identité, faut se réinstaller là-dedans, faut vivre comme tout le monde. Alors que quand on vit comme clandestin, c'est difficile d'aller chercher son pain comme les autres, de donner sa carte d'identité comme les autres. Et cette atmosphère-là, pour moi, je me suis retrouvé seul, comme j'étais seul quand ma maman est décédée, comme je me suis trouvé seul quand j'étais à Brive, ce 12 mars avec ma valise tout seul, et ici, je me suis retrouvé tout seul. Et c'est cette personne que j'avais rencontrée dans la clandestinité, qui savait pas ce que je faisais, cette gosse de 17 ans, qui m'a donné ma personnalité, qui m'a donné ma force de survivre, parce qu'on a presque des envies suicidaires dans ces périodes-là. C'est tellement le vide autour de vous.
Le désespoir est assis sur un banc. Dans un square sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit ninas, il est assis. Et il vous appelle quand on passe. Ou simplement, il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas l'écouter. Il faut passer, faire comme si on ne le voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe. Et rien... Personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors il vous regarde et sourit. Et vous souffrez atrocement. Et l'homme continue de sourire et vous souriez du même sourire exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez irrémédiablement. Et vous restez là, assis, figé, souriant sur le banc. Des enfants jouent tout près de vous, des passants passent tranquillement, des oiseaux s'envolent, quittant un arbre pour un autre, et vous restez là sur le banc, et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants, vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants, que jamais plus vous ne vous envolerez quittant un arbre pour un autre, comme ces oiseaux.
c'est... Il y a eu l'aboutissement de notre amour. On s'est marié le 28 décembre 1944 et ça a été pour moi l'apothéose. Nous avons eu notre fille quelques mois plus tard. Ma femme n'a jamais pardonné d'ailleurs que je ne lui donne pas mon identité, mais je ne pouvais pas lui donner mon identité alors que j'étais condamné à mort. Je me rappelle toujours de cette réaction quand je lui ai dit je m'appelle pas Guy Poujade, je m'appelle Roger Pestouré, et dire que j'ai vécu avec un fantôme pendant des mois, c'était terrible pour elle. Et puis ma fille qui est née, elle est née au mois de mai, ça veut dire que quand on s'est marié, nous attendions le bébé. Et ma fille avait été construite dans des circonstances tragiques, parce que j'avais vu fusiller Gilles Berdu et Chira, qui étaient mes camarades des FUCHP à Bellecour. Le hasard, j'étais dans le car numéro 2, on nous fait descendre pour voir ce spectacle. Mais je savais pas à ce moment-là que c'était Gilles Berdu et Chira, que c'était mes camarades. Je l'ai su 15 jours après. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai vu que c'était ses camarades que j'ai vu fusiller, et là, impuissant, voir simplement, et j'ai pris comme une crise de nerfs. Je suis allé chercher ma femme à son travail, elle travaillait rue Vaudrey. Nous sommes allés rue Saint-Michel, ma chambre. Et là, on faisait attention jusque-là, mais j'étais fou. Le ciel, la terre, mes copains, le sang, tout ça, on a fabriqué ma Nicole. Ma Nicole est un produit de l'histoire. Peut-être malheureusement, elle est née le 6 mai 1945. Elle serait née 2 jours plus tard, le 8 mai. Elle était fabriquée à ce moment-là, et c'est l'histoire, le hasard de l'histoire. Mais voilà un peu ce que me rappelle cette période. Voilà pourquoi là, j'ai retrouvé, disons, peut-être toute la richesse qui est enfouie à moi-même, c'est-à-dire mes sentiments, ma délicatesse, mon besoin amoureux, mon besoin du beau, des femmes, de tout ce qui fait la vie. Voilà, et je terminerai simplement en rappelant que quand même, la plus belle image de cette période, ce qui reste au plus profond de moi-même, c'est le fait qu'on est constitué en septembre 1943 les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique. Parce que ça, c'est une mission qui m'a été donnée par Jean Moulin, par l'intermédiaire de Georges Marane, et d'aboutir à cette réalisation, de regrouper tous ces courants de pensée, et catholiques, gaullistes, et avec ce prix du sang qu'il a fallu payer, mes camarades des jeunesses communistes, 24 sur 42, qui étaient partis à l'aventure en 1940, l'équipe des fuges des jeunes gaullistes qui ont été arrêtés place du Pont, j'en connaissais deux, qui ont été fusillés là-bas à Genasse, l'équipe des fuges de la JOC et de la GEC qui ont été fusillés là-bas place Bellecour, et réaliser ces Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, réaliser ces documents, ces textes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça, je revois ces textes, ça c'est mon écriture, ça c'est de A jusqu'à Z, c'est moi qui ai écrit ces choses-là. À ce moment-là, ça représente beaucoup, parce que ce combat que nous avons mené, c'était un peu le tempérament qui était le mien. Je pense qu'on ne m'a pas choisi par hasard. Ma culture paysanne, peut-être ma culture chrétienne, ont fait que j'avais besoin des autres, j'avais besoin du regard des autres, de la complicité des autres, qui ne partageaient pas ma propre sensibilité. Et c'est ça qui me donnait un état d'esprit de convergence vers ceux qui avaient ce mot de liberté au bout des lèvres et qui voulaient faire quelque chose pour cette liberté. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, c'est très, 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 très multiforme. Je voulais simplement terminer, parce que c'est très fort pour moi, par ce texte de Paul Éluard qui explique un peu mon personnage. Voilà, c'est Paul Éluard qui parle. Je parle de ce qui m'aide à vivre, de ce qui est bien. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à s'égarer, à s'oublier, en n'aimant rien, en réduisant leurs besoins, leurs goûts, leurs désirs, en conduisant leur vie, c'est-à-dire la vie, à la répugnante conclusion de leur mort. Je ne tiens pas à me soumettre le monde par la seule puissance virtuelle de l'intelligence. Je veux que tout me soit sensible, réel, utile, car ce n'est qu'à partir de là que je conçois mon existence. L'homme ne peut être que dans sa propre réalité. Il faut qu'il en ait conscience. Sinon, il n'existe pour les autres que comme un mort, comme une pierre ou comme du fumier. Paul Éluard.
Roger Pestouri, je vous remercie.
Au nom du front parfait, profond, au nom des yeux que je regarde et de la bouche que j'embrasse, pour aujourd'hui et pour toujours, au nom de l'espoir enterré, au nom des larmes dans le noir, au nom des plaintes qui font rire, au nom des rires qui font peur, au nom des rires dans la rue, de la douceur qui lie nos mains, au nom des fruits couvrant les fleurs sur une terre belle et bonne, au nom des âmes en prison, au nom des femmes déportées, au nom de tous nos camarades martyrisés et massacrés pour n'avoir pas accepté l'ombre, il nous faut drainer la colère et faire se lever le fer pour préserver l'image haute des innocents partout traqués et qui partout vont triompher.
Ainsi se termine cette émission consacrée à Roger Pestouri, la deuxième sur le thème de la résistance. La prochaine, sur le thème « Construire la sécurité sociale après 1945 », sera diffusée le 12 mars 2007. Au cours de cette émission, vous avez successivement entendu les illustrations musicales suivantes. « La belle absente », une chanson de Pierre Delorme, paroles et musique qu'il interprétait lui-même. Et puis c'était un extrait de « Je suis seul ce soir », interprété par Aimable, la chanson de Noël Casanova. Ensuite, Léo Ferré chantait une version publique, l'affiche rouge, le poème de Louis Aragon qu'il a mis en musique. Et puis, il y avait un court montage radiophonique à partir de Nuages, un instrumental de Django Reinhardt, enregistrement de l'époque, avec intercalé un extrait du livre « La douleur » de Marguerite Duras, qui était dit par Anne Grimberg, un enregistrement public. Puis vous avez entendu Catherine Sauvage dire le texte de Jacques Prévert, « Le désespoir est assis sur un banc », avec un accompagnement musical de J. Bernard. Enfin, c'est Claude Vinci qui interprétait le poème de Paul Éluard « Au nom du front parfait profond », mis en musique par Joël Holmès. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se vise en claque. Quand les cons se redisent qu'ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Qu'on les bise, mais qu'on les claque. fascisme avance sans même être de gants. Il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se réunissent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise.